Nous sommes là, un podcast lancé par la Commission fédérale des migrations, avec pour toile de fond les questions de genre liées au contexte migratoire en Suisse, avec un focus sur l'égalité des chances. Au cœur de ce débat, une perspective éthique, l'immigration masculine à l'épreuve du genre. Nul doute que l'image des immigrants hommes repose bien trop souvent sur des représentations stéréotypées. Quelle est donc l'évolution de cette image, son ampleur, ses caractéristiques et surtout son impact sur les trajectoires d'intégration de ces derniers? Pour en débattre avec moi aujourd'hui, trois invités. Andrés Garin, vous êtes co-responsable formation à l'OSAR, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. Votre parcours migratoire couplé à votre expérience professionnelle et votre thèse sur le sujet de la migration en lien avec la deuxième et troisième génération permettra de mieux saisir les défis d'intégration auxquels sont confrontés les hommes migrants en Suisse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Dans l'optique de mieux comprendre les réalités quotidiennes des hommes immigrés, et ce, quelle qu'elle soit, Yvan Larson Dengue, chorégraphe et professeur de danse, mettant en scène les questions identitaires, nous livrera à son tour son propre témoignage, un parcours d'homme camerounais établi en Suisse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et mon troisième invité, Karine Carvalho, chef du bureau de l'égalité de l'Université de Lausanne. Votre terrain d'expertise mêlant les actions à l'encontre des inégalités de genre et les discriminations raciales au niveau structurel, institutionnel et individuel, eh bien, nous permettra de faire le point sur le niveau d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes issus de la migration. Bonjour.
Bonjour.
Karine Carvalho, vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler que des femmes dans cette émission aujourd'hui.
Non, d'habitude, mon travail quotidien, c'est parler des situations des femmes hein, et des inégalités sur le marché du travail, dans la formation. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de migration, il y a comme des angles morts. On parle des unes et des autres de manière différente. Pendant longtemps, on a parlé des hommes migrants seulement, en fait, hein, pour étudier les migrations. Bien plus récemment, on a commencé à étudier les migrations féminines, mais on se rend compte qu'on utilise encore dans les politiques publiques, dans le discours médiatique, des termes différents et on va plutôt regarder les femmes sous l'angle de la famille et puis des prestations sociales, par exemple, et les hommes sous l'angle du travail ou de manière négative au niveau de la criminalité.
Avant de justement aborder cette image qui colle aux hommes issus de la migration, Andrés Garin, dites-nous, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes migrantes? On a l'impression quand même qu'il y a plus d'hommes que des femmes.
Alors oui, effectivement, est-ce que vous dites, ça représente un peu, est-ce qu'on peut constater dans notre quotidien ces représentations sur le fait qu'il y a plus d'hommes migrantes, mais statistiquement parlant, par exemple en Suisse, on se retrouve à 49% des femmes qui sont issues de la migration. Après, c'est important la terminologie, j'utilise bien issue de la migration, parce que c'est pas la même chose étranger, migrant ou issu de la migration, et 51%, c'est des hommes. Du coup, on est quasiment à une égalité au niveau de la migration, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler d'hommes qui migrent.
On a l'impression que lorsqu'on parle d'hommes issus de la migration, on a une image étranger ou quelque chose comme ça?
Oui, effectivement, l'homme qui migre représente assez souvent l'étranger qui doit garantir le bien-être de sa famille, une personne assez souvent virile. Là, je fais des raccourcis un peu pour répondre à votre question liée aux stéréotypes, parce que bien évidemment, derrière ça, il y a énormément de choses, énormément de facteurs, qu'à mon avis, on pourra peut-être en discuter après.
Karine Carvalho, en matière de construction de l'imaginaire social, de l'altérité, comment les hommes migrants sont-ils perçus par la société d'accueil en général ?
Déjà, les personnes migrantes, de manière générale, on a tendance à les voir de manière très binaire, hein, en opposition à la société d'accueil, comme si cette société d'accueil était une seule et avec une culture très homogène. Et on ampute à l'autre tout ce qu'on n'est pas. Donc, justement, on va avoir une idée très stéréotypée, beaucoup de clichés autour de migrants. Et puis, bien sûr, avec une certaine variété, si l'on vient du nord global ou du sud global, si l'on si on est plus latin ou d'origine africaine ou d'origine de l'Europe de l'Est, etc. Donc, bien sûr, il y a des clichés qui collent à la peau de tout le monde. Après, on a un système de migration aussi qui classifie. Et cette classification de notre système migratoire fait qu'il y a des personnes personnes qui, d'emblée, en arrivant, ont moins des chances de s'intégrer dans le marché du travail, de faire une formation. Donc tout ça, ça colle un peu aussi à notre relation, où on voit très marqué des classes sociales, et la migration, c'est quelque chose qui sont très marquées, les structures des classes sociales en Suisse et la migration. Donc bien sûr, tout ça impacte notre relation avec les personnes d'origine migrante.
Yvan Larsson, est-ce que cette description fait écho à votre propre vécu? Ça dépend de quelle région vous venez, quelle est l'image des hommes migrants?
Moi, ça me parle totalement parce que, étant un homme, surtout dans un milieu majoritairement féminin, qui est la danse, et on te colle souvent des stéréotypes sur lesquels tu ne corresponds pas nécessairement. On te donne cette image de virilité, que tu dois être toujours un peu plus fort... que tu dois faire... Vraiment, j'accentue sur la virilité parce qu'on doit faire des portées, peut-être pour la danse. Tu ne peux pas te faire porter. Tu dois avoir plus de présence, plus de muscles, être plus grand, plus fort, tout. Donc, et en plus, surtout que moi, j'ai quand même une carnation et une origine qui fait que c'est un peu le stéréotype qu'on a eu, en fait. C'est-à-dire, je suis camerounais, je suis noir. Donc, c'est vraiment ça. Je dois être bâti comme un soldat.
Et quelle est votre propre expérience personnelle? Quels sont les clichés auxquels vous avez souvent affaire et lesquels vous ressentez le besoin de peut-être rectifier le regard?
Le cliché qui me blesse souvent et auquel j'ai souvent le plus de confrontation, c'est le danger. Je peux être selon les heures de la journée, je peux être un danger pour quelqu'un ou aussi une odeur. Ça peut être bizarre, mais oui, apparemment, on me regarde et on pense que je peux peut-être sentir mauvais ou que je suis peut-être un voleur. Et selon comment je m'adresse après à la personne, tu vois dans le regard qu'ils sont un peu surpris et que, en fait, ça ne colle pas avec l'image qu'ils avaient de moi, mais je suis là, mais en fait, je ne peux pas me permettre de seulement être. Je dois faire attention à l'image que je renvoie et selon les situations, je dois un peu me troller et faire un peu comme si je n'étais pas un danger. Donc, par exemple, on va dire, si je rentre tard d'un spectacle et qu'il est 23h, je dois montrer une image très joyeuse, très gaie, pour pas qu'à 23h, quelqu'un ait peur de moi, en fait.
Vous devez rassurer,
je dois rassurer constamment.
Andrés Garin, cette description vous parle aussi. Vous êtes aujourd'hui à notre émission, dans notre émission, avec une double casquette, celle du chercheur dans ces thèmes, mais aussi, vous êtes un homme issu de la migration, qui plus est aujourd'hui père. Qu'est-ce que ça raconte dans votre propre vécu?
Alors, c'est vrai que le fait d'être homme et être migrant, il y a certaines attentes de la part de la population. Et du coup, des fois, on doit essayer, on fait tout pour coller à ces attentes, pour être accepté dans la société qui en arrive. Ensuite, avant, dans la première question que vous m'avez posée, je voulais parler de ces facteurs. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, je suis arrivé ici à l'âge des 22 ans. J'étais encore un peu en construction, si vous voulez. J'étais encore en train de devenir une adulte. Et du coup, mes réflexions se portaient aussi à une malléabilité peut-être plus grande, qui peut être différenciée d'une personne qui arrive ici en Suisse quand il a 40 ans. Et c'est vrai que ma construction identitaire et ma construction de ma masculinité, si on peut l'appeler ainsi, il a joué dans cette différenciation culturelle, celle que j'ai amenée avec moi et celle du pays qui m'a reçu, qui m'a accueilli. Et du coup, cette confrontation continuelle fait aujourd'hui de moi quelqu'un qui, dans certaines situations, se positionne dans sa masculinité par rapport à son pays d'origine et puis des fois, par rapport au pays qui m'a reçu, qui m'a accueilli.
Il y a donc cette espèce de tension entre ce que l'on imagine être un homme dans vos propres cultures et ce que l'on considère être un homme dans notre propre culture ici en Suisse. Karine Carvalho, qu'est-ce que ça raconte sur l'égalité des genres? On sait que pour les femmes migrantes, il y a un certain nombre de clichés, mais on voit que quand même, pour les hommes, il y a aussi beaucoup de clichés qui ont la vie dure, on peut dire.
Oui, on aime se penser égalitaire en Suisse en général, hein, aussi en Europe en général. On aime beaucoup se penser égalitaire. D'ailleurs, on pose la question aux gens quand ils arrivent hein, dans le processus d'obtention de permis ou de naturalisation. C'est quelque chose, voilà, vous savez qu'en Suisse, il y a une norme sur l'égalité, une loi sur l'égalité, etc. Donc on se pense comme étant très, très égalitaire. Souvent, sans se poser suffisamment la question, sommes-nous ? Et on ne se pose pas la question, est-ce que les personnes qui arrivent sont dans des rapports de genre plus égalitaires que nous ou pas ? On part du principe que forcément pas, puisque nous, on est la référence. Donc, quand moi, par exemple, je suis arrivée en Suisse, depuis le Brésil, la première chose qui m'a choquée, c'est le taux d'activité professionnelle des femmes, qui est beaucoup plus bas que chez moi. Je dirais, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, toutes les travaillaient à 100%. Et ces régimes, ces modèles professionnels et familiales où les femmes travaillent à temps partiel et les hommes à temps plein étaient très nouveaux pour moi et forcément aussi source de certaines inégalités sociales, économiques, etc. Donc déjà ça, de faire comprendre que peut-être, venant d'ailleurs, on vient avec des idées de ce qu'est l'égalité, ce qu'est les rapports de sexe au sein du couple, au sein de la famille, au sein de la société, sont peut-être pas aussi inégalitaire que ça, et comprendre qu'il y a une diversité, je pense que c'est aussi important. Et puis après, l'aspiration des personnes qui migrent. Forcément, beaucoup de personnes, quand elles migrent afin de devenir pourvoyeuses, d'accéder à des marchés d'emploi, etc. Donc, quand on vient et qu'on doit se mouler à un rôle masculin ou féminin, qui est celui de la société d'accueil, c'est forcément compliqué.
Est-ce que, Andrés Garin, vous avez l'impression que vous avez évoqué votre histoire en Colombie, vous êtes arrivé à l'âge adulte, on peut dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a fait comprendre que vous venez d'une société plutôt patriarcale, traditionnelle, peut-être voire un peu reculée, peut-être par opposition à une société d'accueil plutôt progressiste, émancipatoire? Et comment est-ce que vous avez réglé cette tension entre ces deux? Peut-être que vous étiez vous-même, vous vous estimiez très moderne finalement.
Alors... Je pense que la tension, elle est encore présente. C'est ce que je disais avant. Des fois, il y a des moments où je vais chercher ce que j'avais chez moi pour me sentir à l'aise. Et des fois, je prends ce qui m'a été donné en Suisse. Moi, aujourd'hui, je donne un exemple. Moi, j'aime bien donner cet exemple, surtout dans les formations que je fais autour de la thématique de la compétence transculturelle. C'est, par exemple, la négociation des tâches ménagères. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui, on doit tout partager, l'égalité, c'est, signifie tout égal, tout pareil. Et puis, effectivement, il y a pour beaucoup de choses, ce discours, il est valable, il est très, très, très valable. Mais des fois, dans les fonctionnements, par exemple, au niveau du ménage, ce n'est pas forcément ça. Et je l'ai découvert, par exemple, à la naissance de mon enfant. À la naissance de mon enfant, je me suis rendu compte que, ben, oui, on devait partager les tâches, mais ben, il y en avait des tâches qui, dont ma copine était beaucoup plus forte à les faire que moi. Moi, je ne sais pas, je pense par exemple à l'achat de vêtements, disons. Par contre, moi, je me suis concentré à la nourriture. Et du coup, là, je me suis concentré un peu à qu'est-ce que va manger l'enfant. Du coup, on a commencé à trouver un équilibre, mais c'est une négociation à l'intérieur du couple. Du coup, elle était d'un parcours suisse, de suisse italien. Et là, on rentre dans différentes négociations pour que les choses se passent bien à l'intérieur du couple.
J'aimerais qu'on aborde cette question de la trajectoire d'intégration. En quoi, justement, cette vision, ce regard qui est parfois caricaturé sur les hommes migrants, en quoi cette vision affecte votre parcours d'intégration? Qu'est-ce que ça dit de votre regard sur vous-même en tant qu'homme, Yvan Larsson?
Ça sera un peu de tout pour moi, hein. Ça m'a ralenti sur des moments parce que j'ai mis longtemps avant de me décider que j'allais faire carrière dans la danse, avec l'art. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas être encore dans ce stéréotype où si je suis un homme noir, je dois faire du sport, de l'art ou un métier manuel. Donc je voulais vraiment éviter toutes ces zones-là et aller dans quelque chose d'un peu plus, je dirais, intellectuel au niveau de la société. Et donc j'ai mis un moment avant de devenir danseur. Pourquoi? Juste pour ça, parce que je me mettais des blocages. Mais en même temps, ça a été aussi une source de motivation. Et je n'enlève pas le cas que je dois quand même faire attention sur certaines choses et ne pas y aller en me disant que je suis comme tout natif suisse d'origine. Parce qu'en fait, on ne m'accueille pas de la même manière. Et en fait, dès que j'oublie cette partie-là, je me fais rapidement blesser. Donc, il faut quand même que je me rappelle que oui, je suis suisse, mais que je suis aussi autre chose. Donc, c'est-à-dire camerounais, noir et plein, et tout ce qui vient avec.
Vous dites rapidement blessé, c'est-à-dire ?
Parce que si je me dis que je viens avec la même égalité que les autres, et que je n'ai pas les mêmes opportunités alors que tout le monde les a, ben, en fait, je vais trouver la faute sur moi, alors qu'au final, en fait, de manière simple, c'est simplement parce que j'ai une certaine origine et qu'en fait, on ne me veut pas là. Et ça. Et quand tu as la réponse, oui, ça te blesse, mais au moins tu sais d'où elle vient. Alors que des fois, on va te donner des excuses, c'est-à-dire « Non, mais tu n'es peut-être pas ce qu'on voudrait chercher. » J'ai eu la même chose dans des auditions, parce qu'en fait, j'ai fait une formation ici, et on a voulu me donner que des rôles où je pouvais mettre des danses traditionnelles d'origine africaine, alors que j'ai quand même aussi... J'ai de ça, mais j'ai quand même fait aussi une formation contemporaine. Donc, je suis là, ok, à quoi m'a servi alors ma formation
Karine Carvalho, qu'est-ce que ça nous dit sur les questions de genre? Est-ce qu'on est sensible dans les études en lien avec les questions de genre à ces stéréotypes qui parfois peuvent être assez, je trouve, brutales? Le fait de devoir tout le temps rassurer l'autre, ça renvoie aussi à une image de soi un peu plus difficile à gérer, je trouve.
Tout à fait. Nous avons toutes et tous des stéréotypes, des images qu'on va solliciter de manière rapide pour prendre des décisions, etc. Donc la plupart du temps, c'est un peu une réaction, même assez normale des êtres humains, d'avoir des idées conçues. Mais après, le problème se situe quand on va modifier notre comportement, qu'on va prendre des décisions qui affectent les autres. Et là, des stéréotypes, on passe vers le préjugé, puis ensuite vers la discrimination. Et ce qu'on vient d'entendre participe à ça, participe à la discrimination. Parce qu'on peut penser que un artiste noir venant d'Afrique va plutôt présenter un homme, va plutôt présenter une œuvre qui est plus liée à sa tradition, parce qu'on colle peut-être le stéréotype homme noir africain traditionnel. Donc on va avoir ça. Mais après, le préjugé, ça va être quand on va proposer uniquement des rôles ou valoriser uniquement cette partie-là de sa personnalité professionnelle plutôt que l'autre. Et puis la discrimination va venir quand on va le coller uniquement, on va donner uniquement des chances par rapport à ça et puis pas par rapport aux autres choses. Donc ça, c'est effectivement, c'est une problématique quand on parle d'égalité de manière générale et diversité de manière générale, quand on inclut la question de genre, parce que là, on doit travailler dans l'intersectionnalité. Les questions de genre vont impliquer aussi ces questions de discrimination raciale, stéréotypes et genre vont s'imbriquer. Il y a des rôles qui sont genrés, mais qui sont genrés de manière différente selon comment on catégorise les gens. Donc effectivement, on a vu les hommes noirs vont être plutôt associés au danger, à la criminalité. Les femmes noires, peut-être, de la prostitution ou à la sphère domestique, etc. Donc comment sortir de ces rôles-là est important et comment trouver... moi, je suis passionnée, par exemple, quand les personnes vont chercher des métiers atypiques pour elles, pour eux. Un homme sage-femme, un homme migrant sage-femme, par exemple, ça, c'est intéressant. Ça existe au CHUV, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on peut sortir de ces positions qui sont attendues.
Comment est-ce que ces stéréotypes influencent la perception et les comportements sociaux envers les hommes migrants? J'ai l'impression que lorsqu'on parle des femmes, on a l'impression qu'une femme migrante incarne plutôt une position de femme victime, peut-être au foyer, qu'on aurait envie de sauver, de sortir de sa situation. Et un homme, on a l'impression que c'est un homme peut-être violent, agressif, duquel il faut se protéger. Donc l'un provoque une stature plutôt défensive et l'autre protectrice. Qu'est-ce que ça provoque comme comportements sociaux et quelles sont les conséquences, toujours en lien avec cette trajectoire d'intégration, Andrés Garin?
Alors, je pense qu'il y a un terme qui est assez important. Quand on parle de processus d'intégration, c'est tout ce qui est la construction de l'identité propre. Et la construction de l'identité propre, elle est essentielle pour le bien-être, et le bien-être est essentiel pour réussir l'intégration. Les exemples qu'on vient d'écouter maintenant, ça montre clairement comment la plupart des personnes migrantes doivent adhérer à un certain stéréotype qui leur est posé pour réussir ce processus d'intégration la plupart des temps, ou en tout cas pour être acceptés. Et ça, ça a un impact dans la construction identitaire des individus. Et là, je pense qu'effectivement, ce stéréotype qu'on colle à la peau des hommes migrantes peut avoir effectivement un impact assez fort dans le processus d'intégration. Moi, je pense assez souvent, par exemple, à la manière comment je me présente. Moi, je suis suisse, j'ai mon passeport, mais vous entendez très bien mon accent. Et en fait, il est pour moi assez difficile aujourd'hui de dire « Bonjour, je m'appelle Andrés Guarín, je suis suisse ». C'est assez compliqué parce que l'attente des personnes n'est pas celle-là forcément. Déjà, mes traits physiques aussi également vont donner un certain nombre de stéréotypes. Et en fait, je construis mon identité par rapport à ce que les autres me donnent ou les reflets qu'ils me donnent de ce que je suis. Et c'est pour ça que je parle toujours de... Il y a un auteur, Sayat, algérien, qui parle toujours, ou qui avait une phrase qui dit « ni ici, ni d'ailleurs ». C'est un peu ce processus. Et dans la masculinité, c'est vrai qu'on est dans ce processus également. Parce qu'il y a des valeurs culturelles qu'on amène qui sont difficiles à travailler par rapport à la représentation que les autres ont de toi ou est-ce qu'ils s'attendent que tu sois.
Est-ce que ça signifie que vous devez vous amputer d'une partie ou est-ce que vous vous enrichissez de toutes ces parties, vous proposez une nouvelle forme de masculinité?
Alors, en tout cas, je dois réfléchir à deux fois dans beaucoup de cas. Tout ce qui vient de ce que je dis va être pris différemment, par exemple, quand tu fais une blague, moi je suis les latinos qui dansent, dragueurs, moi des fois, je suis tombé sur des malentendus parce que les gens s'imaginaient que j'étais comme ça.
Les préjugés vous précèdent en fait.
Bien sûr, et du coup ça m'accompagne, et puis du coup là je dois faire attention dans beaucoup de commentaires que je fais pour ne pas tomber dans cette représentation que les gens ont de moi. J'ai même dû prendre des distances aussi.
Yvan Larson, vous souhaitez réagir?
Non. Mais...
Ça vous parle? Je vous vois sourire, abonder dans son sens.
Oui, tellement. Pour certaines choses, j'ai des... tout récemment, j'étais en spectacle et dans les loges. Moi, ce que je faisais ces temps-ci, je brode. Typiquement, j'ai appris à broder et j'aime ça. Et on ne s'attend pas...
Vous allez complètement nous déstabiliser, vraiment.
On ne s'attend pas à ça de moi. Et les gens, ils sont là, mais tu brodes? Et... Je suis là, oui, et parce que mon genre ne montre pas ça. Ah, j'étais là, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ce genre de choses. Et je suis là, mais j'aime ça. Et voilà, en fait.
Est-ce compliqué d'affirmer cette spécificité ou d'aller à l'encontre des idées reçues vous concernant, homme, jeune homme, camerounais?
Oui, c'est... Maintenant, je fais un peu tout le contraire. C'est-à-dire que j'appuie vraiment sur... quand j'ai décidé que je voulais vivre de ma passion, de l'art, j'ai décidé, tu sais quoi, on va aller dans l'extrême. Même par rapport à ma famille, c'était même pas aussi facile. Donc je suis percé, je suis dreadé, je suis tatoué, je brode. J'aime aussi de temps en temps faire la fête, mais des fois j'aime juste dormir chez moi. Et en fait, il y a des choses où des fois je pleure devant un film, voilà. Et
c'est une bonne nouvelle.
je vais avoir un type de musique, en fait, les gens ne s'attendent pas.
Pour faire un lien quand même avec l'égalité des chances, lorsqu'on aborde la question sous un angle genré, qu'est-ce que là ça implique en termes d'accès aux ressources et aux opportunités pour les hommes migrants, s'ils ne jouent pas le jeu d'être ce qu'on entend d'eux, ou s'ils jouent, s'ils s'affirment en fait avec leurs propres caractéristiques, parce qu'on aborde aussi la question de la liberté d'être différent.
Oui, tout à fait. Si on prend déjà, par exemple, les parcours migratoires et les types de formation ou d'emplois qui sont le plus souvent ouverts à des personnes migrantes, c'est généralement dans les services, généralement dans la santé. Et là, on voit que c'est typiquement beaucoup de métiers traditionnellement plus féminisés. Et là, on va avoir l'idée de docilité ou de prendre soin des autres, qui vont être exacerbés. Et puis c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes migrantes se retrouvent dans ces secteurs d'activité-là, mais aussi beaucoup d'hommes. Et que du coup, il y a une négociation de comment on voit les hommes migrants, l'éloignement de l'idée des dangers ou de personnes forcément peu qualifiées, mais qui peut aussi être quelqu'un qui prête service. Alors les hommes, on va voir plutôt dans la construction, dans le métier technique, Mais après, ça dépend justement de quelle filière d'immigration les personnes ont suivi en Suisse. Donc, il y a cette attente, et j'ai presque envie de dire, voilà, c'est comme si on collait aux personnes migrantes des rôles de genre qui sont très, très forts, hein, aux femmes, les soins, les prestations aux autres, et puis aux hommes, la construction.
Plus qu'aux résidents, c'est-à-dire
plus, on peut plus qu'aux résidents, donc on va les enfermer peut-être le champ des possibles, beaucoup. Si aussi il y a des questions de pouvoir économique, de pouvoir accéder à des métiers supérieurs, etc. Mais voilà, on voit presque plus fortement cet ancrage-là.
Mais en termes d'accès, qu'est-ce que ça freine au niveau, suivant si on est un homme migrant ou une femme migrante? Est-ce qu'ils ont les mêmes défis à relever ou il y a des spécificités pour lesquelles il vaut la peine de mettre le point, sur lesquelles il vaut la peine de mettre le point dessus?
Alors, je pense que les défis sont les mêmes, mais il existe des spécificités. Par exemple, quand on postule un emploi et qu'on ne correspond pas ni au genre, ni à l'image de l'emploi. Alors, pensez un homme étranger qui postulerait pour un poste de concierge, il n'y a pas de problème. Un homme suisse qui postulerait pour un poste de concierge, on se dirait... Mais qu'est-ce qu'il a eu comme problème dans sa vie? Voilà, pourquoi il s'intéresse? Ici, chez nous, il n'y a que des Portugais. Donc voilà, on sait aussi que pour certains postes, par exemple dans l'administration, etc., il y a une forte discrimination des personnes avec un nom d'origine étrangère. Donc voilà, ces implications, les stéréotypes qu'on a et comment on classifie les métiers comme étant plus masculin ou féminin, ou alors plus qualifié ou moins qualifié, quand on est une personne migrante et qui ne correspond ni à l'image qu'on se fait de la qualification de métier ni au genre qu'on colle au métier, on va être possiblement discriminé sur le marché de l'emploi.
Andrés Garin, vous avez aussi étudié les deuxième et troisième générations issues de la migration. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune issu des pays des Balkans, est-ce qu'il y a une image qui lui colle à la peau avec laquelle il doit composer?
Effectivement, dans l'étude qu'on a réalisée, les lieux d'origine des parents et les pays d'origine des parents jouent un rôle suprêmement important dans le processus d'intégration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'une image qui est collée à la peau d'un certain type de migrants, mais si on regarde les statistiques, quasiment les 70% des personnes qui viennent en Suisse proviennent des pays européens. Du coup, là, peut-être cet imaginaire qu'on a ne correspond pas à toute la population migrante aussi. Mais là, le rôle des médias, moi, je le trouve essentiel, ce rôle du média, parce qu'effectivement, les image qui me passe à chaque fois, et en travaillant au niveau des personnes réfugiées ou requérant d'asile en Suisse, ben là on a typiquement assez souvent des sommes qui sont représentées.
Par rapport à la deuxième génération. Avec des caractéristiques très spécifiques.
Très spécifiques.
Comme
provenant de pays érythréens, des personnes seules qui ont fait la traversée de la mer, voilà, qui ont subi un certain nombre de souffrances dans leur parcours, qui sont vrai pour la plupart d'entre eux.
Et qui serait problématique, en fait, ou pas? Est-ce qu'il y a la notion de problème qu'on accole à ces hommes-là?
Ah, bien évidemment, parce que derrière ça, il n'y a pas seulement l'effet de venir d'un certain pays, d'avoir migré dans un contexte de violence, mais il y a tout ce qui est l'approche culturelle qui vient avec. Karine le mentionnait avant, on peut cette approche où, par exemple, nous, de l'Occident, on voit d'une certaine manière les rapports hommes-femmes, et puis dans d'autres pays, on les voit différemment. L'égalité hommes-femmes n'est pas vécue de la même manière partout, et puis du coup, bah, des fois, ça colle à la peau pour ces personnes qui arrivent de ces différents pays. Mais la question était liée aux deuxièmes générations par rapport à ce processus d'intégration. Et c'est vrai qu'on constate des différences énormes par rapport aux enfants des migrants qui viennent des pays européens, des pays ex-yougoslaves, des portugais, des espagnols, parce que le processus d'intégration n'est pas le même et l'histoire migratoire n'est pas forcément la même. Par exemple, pour la population ex-yougoslave, on a constaté clairement qu'il y a une insertion, par exemple, au niveau du marché de l'emploi, qui est beaucoup plus compliquée. Et ça, il y a beaucoup d'études qui l'ont déjà démontré avec différentes méthodes, chose qui n'est pas forcément la même par rapport, par exemple, aux Espagnols, aux Italiens, où la deuxième génération commence à s'insérer beaucoup plus facilement.
Karine Carvalho, pour faire très simple, est-ce que les femmes migrantes s'intègrent plus facilement que les hommes migrants?
Ce n'est pas si simple, alors je ne pourrais pas répondre de manière simple.
Est-ce qu'il y a des mécanismes qui faciliteraient davantage l'intégration des femmes que des hommes migrants?
Alors, je pense que plus les personnes ont des contacts positifs avec les institutions, avec la société, avec le monde associatif, etc., mieux est cette intégration ou cette inclusion, parce que j'essaye de voir les choses qu'on met en mouvement dans les deux sens, et pas seulement de la personne migrante qui doit s'intégrer dans la société d'accueil. Donc, plus il y a des contacts positifs, enrichissants, mieux c'est. Donc, c'est vrai, je pense souvent à la génération qui est venue avant moi, qui ont dû s'adapter, parler à l'école, par exemple. Hein, donc, le fait d'avoir un contact plus proche avec l'école et donc de connaître ses voisins qui ne sont pas forcément de la même communauté, donc connaître les enseignantes et enseignants, de devoir peut-être faire ses rôles de lien social,
oui.
Interagir, faire ses rôles et donc de trouver des interactions positives, peut-être était un facilitateur pour certaines femmes de mieux se sentir appartenir à la société, à la société d'accueil. Par contre, de l'autre côté, il était difficile aussi parce qu'on cumule des discriminations dans le marché du travail liées au fait d'être femme et le fait d'être femme étrangère. Donc, on a des emplois plus précaires avec moins d'intégration et on sait que le travail est un grand vecteur d'intégration. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux et que ça dépend aussi beaucoup de ces interactions positives qu'on pourrait avoir avec la société d'accueil dans sa diversité, pas que les personnes suisses, parce que pour moi, la société d'accueil et aussi les migrantes et migrants qui sont ici.
Finalement, quels sont les mécanismes et les stratégies mises en place pour garantir un processus d'intégration plutôt réussi?
Bon, c'est une thématique que je connais assez bien. C'est tout ce qui est lié à l'agenda intégration suisse qui touche plus particulièrement les personnes qui sont arrivées en Suisse par la migration forcée. Et en fait, là, on constate que Enfin, on s'est rendu compte que l'aspect social était essentiel, que créer des réseaux, que rencontrer des gens d'ici, qui ont grandi ici, peuvent apporter beaucoup plus de fois que même un cours de langue. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose qu'on a trouvé dans une étude qu'on a faite au sein de l'établissement Baudouin d'accueil des migrants. En fait, on a commencé à s'intéresser au niveau des Français. Et on a fait une distinction entre hommes et femmes. Et on a constaté que les femmes avaient un niveau beaucoup plus élevé à l'écrit que les hommes. Puis du coup, on s'est dit, c'est bien, c'est normal. Par contre, à l'oral, en fait, les femmes avaient un niveau plus bas que les hommes. Et ça nous a questionné pour dire, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Et là, effectivement, il y a d'autres études qui ont été faites ailleurs où on montre clairement que la femme n'arrive pas forcément à s'exprimer dans ses cours de langue, par exemple. Et du coup, il y a des politiques qui doivent être tenues en compte pour, par exemple, garantir que la femme puisse s'exprimer beaucoup plus dans son cours. Et ça n'arrive pas que chez les migrants. C'est quelque chose qu'on constate dans la population de manière générale. C'est beaucoup plus l'homme qui prend la parole. Du coup, ça, on l'a constaté clairement là. Et puis, on a remarqué clairement que, par exemple, les femmes migrantes avaient beaucoup plus de problèmes à suivre le cours dès qu'ils avaient un enfant. Chose que, par exemple, n'arrive pas chez les hommes. Et ça répond un peu aussi à une question que vous aviez posée avant à Karine. Effectivement, je pense que pour les femmes, il y a des contextes socio-structuraux qui font que, dans certains cas, elles sont plus discriminées que les hommes dans l'insertion professionnelle, dans l'accès aux cours de langue, dans l'accès aux garderies, rien que ça.
Est-ce que ça signifie que ce sont les réseaux sociaux, si on peut le dire comme ça, et les interactions sociales qui pourraient faire la différence? Ça pourrait être une des pistes pour lutter contre justement ces obstacles à l'intégration des hommes issus de la migration et des femmes d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Je pense que le dialogue est hyper important. Hein. De pouvoir donner la parole aussi aux personnes d'origine migrante et migrante pour pouvoir dire, qu'est-ce que moi j'apporte aussi à la société d'accueil, comment je la vois, comment je la transforme, etc. Donc, c'est en ayant ces rôles actifs. Et je pense que la plupart des associations aujourd'hui qui travaillent avec des migrantes, migrants, qui travaillent pour l'intégration et l'inclusion, partent de ce principe-là. Il faut intégrer les personnes dans aussi la production de cette politique, qu'elle soit active. Et c'est comme ça qu'on change l'image qu'on a des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes.
Merci pour vos témoignages et vos réflexions. Merci à Andrés Garin, co-responsable formation à Lozar, Karine Carvalho, chef du bureau de l'égalité de l'Université de Lausanne, et à Yvan Larsson, chorégraphe et professeur de danse. C'était l'épisode 17 de « Nous sommes là » sur l'égalité des chances et les rôles des hommes et des femmes liés au contexte migratoire suisse. Une réalisation de Vyosa Gervala, mandatée par la Commission fédérale des migrations, à écouter sur www.ekm.admin.ch, sur www.podcastlab.ch et sur les plateformes d'écoute où l'on trouve des podcasts de qualité tels que Spotify, Deezer et sur Apple Podcasts.